Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Si vous ne me connaissez pas, je suis Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos et je fais des podcasts depuis plus de 10 ans. Avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application, FP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Romain Tourillon, kinésithérapeute à l'hôpital de la Tour à Genève, mais surtout l'un des meilleurs spécialistes mondiaux du pied. Ce n'est pas ce que j'avais prévu d'aborder, mais devant une telle passion, je n'ai pas su résister. J'espère donc que vous vous régalerez autant que moi. Bonne écoute. Salut Romain, comment vas-tu aujourd'hui?
Eh bien bonjour Rudy, ben merci, ça va très très bien, en forme pour ce podcast. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir.
Ben, on a eu du mal à se caler, ça fait longtemps que je voulais t'avoir parce que je te suis sur LinkedIn. Je t'avais écouté sur le podcast de Julien, ton collègue qui a le podcast Objectif Performance, qui est mon voisin. Et donc, j'étais intéressé d'en savoir plus sur ce que tu fais au jour le jour, en tant que kiné, mais peut-être pas que kiné. Tu vas m'expliquer tout ça. Et je voulais commencer déjà par ton parcours personnel. Si je comprends bien, toi, t'es kiné, est-ce que c'est ça?
Ouais, exact. Alors, j'ai plusieurs, maintenant, on va dire, cordes à mon arc. J'ai commencé par des études de kiné à Nantes. Donc, je suis originaire de l'ouest de la France, département de la Vendée, plus précisément. J'ai fait mes études de kiné donc à Nantes et puis j'ai eu la chance à cette période-là que l'université et l'école de kiné de Nantes ont monté en fait un double cursus où on avait la possibilité de faire un master. Donc c'était le master entraînement et optimisation de la performance qui existe toujours à Nantes. Et donc ben, avoir ce qu'on appelle un cursus parallèle, c'est que j'ai fait ma dernière, avant-dernière et dernière année de kiné et mon master 1 et mon master 2 en même temps, sur la même année. Donc, qui dit en même temps, dit deux fois plus de cours, un double examen, etc. Et c'était fabuleux parce que j'ai l'impression que les sciences du sport et la préparation physique, l'évaluation, la performance, dans ce master-là, m'ont apporté ce que m'apportait pas forcément l'école de kiné. Et je trouvais que c'était super complémentaire. Et donc, on va dire, on est sorti avec deux diplômes. Un plutôt entraînement terrain, un autre plus, qui est le diplôme d'état de kinésithérapie. Ce qui m'a amené ensuite vers une thèse de doctorat que je fais actuellement. Toujours sur la performance sportive, et notamment l'intérêt, on en reparlera, de la force du pied, de la force des muscles du pied, plus principalement la force de l'avant-pied, force autour des articulations des orteils. Donc voilà à peu près mon parcours universitaire, on va dire. Et puis, au niveau professionnel, j'ai fait mon stage à l'hôpital La Tour parce que je voulais travailler avec François Fourcher, qui est maintenant notre chef physio. Ici à Genève, parce que j'avais toujours une appétence pour le pied, etc. Quand on regarde un petit peu la littérature en France ou dans le monde, on tombe souvent sur son nom et je me dis, bon, bah, sympa. En plus, j'avais entendu parler qu'il se montait un truc science clinique, etc. Donc, ça collait très bien aussi avec mes études à l'époque entre kiné et master. Et puis, on a monté un projet tous les deux. On s'est vu c'était en 2018. On a passé 4 mois ensemble. C'était fabuleux. On a fait ma manip ou une étude expérimentale qui a été mon manuscrit ou ma thèse de fin de master et de dernière année de kiné. Et puis, ça m'a tellement plu que j'ai voulu rester là-bas, donc emmener mes valises et traverser la France pour aller là-bas, puisqu'il m'offrait la possibilité de conserver une partie clinique et réaliser ma thèse aussi à côté. C'est ce que je voulais profondément, c'est garder les mains dans le moteur, parce que je pense que je suis né pour ça et je suis un grand amoureux du terrain et de la clinique. J'adore aussi l'aspect scientifique. et l'aspect recherche, mais je voulais un lieu où je pouvais combiner les deux, donc ça a été l'atout. Donc voilà pourquoi j'ai déménagé. Je travaille toujours là-bas, parce que c'est mon employeur de thèse, on va dire. Et puis voilà, c'est ce qui m'anime depuis 4 années un petit peu. Et puis après, pour mon parcours plutôt thèse, Jean-Benoît Morin, qui est très connu forcément sur les notions de sprint, biomécanique, profil force-vitesse, tâche explosive, puissance, etc., s'intéressait à l'époque, ou voulait s'intéresser au pied, notamment sur le rôle du pied, de la cheville, à la base sur le sprint. Et puis son déménagement de Nice à Lyon fait que ça rapproche aussi. Et on a monté aussi un dossier ensemble de projet de thèse. Donc, on va dire que je suis plutôt bien entouré, que ça soit à la tour avec François Fourchet puis tous mes collègues, où c'est un réel plaisir de travailler avec eux tous les jours. Et puis, du côté de la thèse avec Jean-Benoît Morin sur la direction de thèse. Donc voilà, c'est cool et c'est sympa. Ça permet d'animer un petit peu les journées et les semaines, comme tu as pu le comprendre. Donc voilà pour moi.
J'ai une question rapidement sur ton parcours. Tu dis que donc tu faisais des études de kiné et il y a eu l'opportunité de faire un master plus orienté sport en même temps. Est-ce que toi tu étais sportif à la base ou est-ce que quand tu as fait tes études de kiné, tu avais déjà en tête de devenir kiné du sport ou pas du tout?
Ouais, il y a une vraie appétence sportive hein, pour moi. Donc, bien sûr que je suis rentré un petit peu dans le métier de kiné, où j'ai voulu faire kiné par le biais de blessures, de ma pratique, d'avoir rencontré aussi en rééducation des professionnels de santé. Et donc j'avais toujours, voulu, entre guillemets, quand je rentrais à l'école de kiné, me dire bon, j'aimerais travailler dans la sphère sportive. Alors, club, pas club, centre de rééducation sportive, cabinet tourné vers le sport, j'avais absolument pas d'idée. Et j'aimais aussi la littérature beaucoup, j'aimais beaucoup lire, chercher des connaissances tout seul, en dehors des cours beaucoup. On me connaissait aussi beaucoup pour ça à l'époque. Celui-là qui avait une grosse bibliographie, c'est comme ça souvent qu'on m'appelait, une grosse bibliographie littéraire. Et donc, je trouvais que c'était une super opportunité de combiner ça. Et maintenant, ça s'est très démocratisé. Il y a beaucoup, beaucoup de kinés qui font des masters, pas forcément en double cursus, même si il y a quelques villes maintenant et IFMK qui s'y mettent. Donc, je trouve ça super bien. Et nous, on a été un petit peu précurseurs à Nantes et ça m'a permis, en tout cas, d'allier différentes passions au final à l'époque, ouais, qui matchaient bien, hein, que ça soit sport, sciences, performance, clinique, kiné, ça c'est top.
Tu parlais de l'hôpital Latour où tu travailles. À la base, moi, quand j'entends le mot hôpital, je me dis c'est un endroit pour se faire soigner, opérer, tout ça. Et comme j'étais venu quand Julien avait organisé la venue de Guillaume Tanon, j'avais pu voir des installations assez incroyables. Je m'attendais pas trop à ça et pas un service physio, on dit en Suisse, aussi développé. Est-ce que toi, quand tu rejoins Latour, c'est déjà comme ça? Est-ce que tu vois déjà tous ces appareils, tout ce matériel à disposition, presque dernière technologie, ou ça s'est monté progressivement?
Alors bien sûr, ça s'est monté, mais par contre, les locaux, si tu veux, alors l'hôpital Latour, c'est un hôpital privé, parce qu'on a tous les services liés à la médecine générale, et puis on a un service d'urgence. C'est pour ça qu'on a un hôpital privé. Et au sein de cet hôpital, on a un bâtiment qui s'appelle le B2, qui est le bâtiment lié à la médecine du sport, au mouvement. Et à l'intérieur de ce bâtiment-là, on se partage avec les médecins du sport, l'imagerie et la chirurgie orthopédique, donc le service de physiothérapie, qui est en fait un service hospitalier, puisque on a forcément des prises en charge qui sont qu'on appelle post-opératoires, avec des prises en charge de gens en interne qui sont opérés chez nous, qu'on voit en chambre, etc., à quelques heures de l'opération. Donc ça, c'est bien pour faire de l'aigu directement. Puis on a un service qu'on appelle externe, qui représente à peu près 85% de nos patients, qui sont des gens qui viennent en fait à l'hôpital Latour, comme tu l'as vu, dans notre service, comme si tu allais dans un cabinet, tu vois, ou dans un centre de médecine du sport un peu plus classique. Et puis, sur la vision, on la doit vraiment à Finn Mahler, qui est médecin du sport chez nous, qui avait cette vision de allier différentes professions dans un même bâtiment, d'allier aussi de la science à l'intérieur, faire de la recherche. C'est pour ça qu'on a un laboratoire de biomécanique, un laboratoire de physiologie, et puis un espace ouvert, comme tu as pu le voir aussi, avec des couloirs d'athlétisme, avec un panier de basket, avec du synthétique, avec des pentes, etc. Et puis, tout le matériel, il s'est construit au fil de ces 5 dernières années, parce que moi, quand je suis arrivé, comme je te disais que je savais qu'il allait se monter un truc, c'est que François en avait parlé dans un podcast, et moi, je trouvais ça sympa de faire mon stage là-bas. Et quand je suis arrivé, ça faisait 3 mois qu'ils étaient dedans, ou 4 mois. C'était tout neuf, dernier cri. Ça allait un petit peu toujours. Alors, on va évoluer, parce que 5 années en Suisse, c'est déjà trop vieux. Donc, il faut refaire encore des nouvelles choses. Mais en tout cas, après, sur le matériel, il s'est développé, si tu veux, au fil de nos expertises avec mes différents collègues, où on a investi dans les choses. Je pense, par exemple, à l'EMG, je pense aux plateformes de force, je pense aussi aux accéléromètres, à ces choses-là, tu vois. Et puis voilà, ça se construit un petit peu comme ça. Mais le bâtiment est né en 2018, avec tout ce que tu as pu voir quand tu es venu sur la conférence de jeu, ouais, avec Guillaume Tanon.
Comment tu deviens passionné du pied et notamment de l'avant-pied et de cette musculation du pied? Est-ce que c'est parce que tu as eu des entorses ou des problèmes au pied ou pas du tout?
Alors ouais, c'est drôle, parce qu'en formation, on pose souvent la question avec mon collègue Massemba ou François Fourché, qui s'est déjà fait une entorse dans la salle, etc. Puis moi, je suis le seul à pas lever la main souvent. Et donc, non, absolument pas. On va dire, je touche du bois sur tout ce qui est blessure au niveau pied-cheville. Bah, il y avait déjà l'attrait à l'école, avec notamment un stage en cabinet libéral, où ils avaient beaucoup de pathologies pied-cheville. Alors, ils faisaient beaucoup de sportifs, mais ils avaient beaucoup de pathologies pied-cheville. Et puis après, il y a eu l'apport forcément de François Fourché lors de mon mémoire, où je m'intéresse déjà aux muscles du pied, à l'électrostimulation, mettre du complexe sous l'arche du pied. C'était un truc un petit peu novateur. On en parlait pas beaucoup à l'époque, etc. Et puis, en fait, l'intérêt, il vient pour moi de trois notions. Si tu regardes au niveau épidémiologique, tu en as parlé. Quand on parle pied-cheville, on parle entorse. Entorse, instabilité chronique, je me tords les chevilles, etc. C'est à la fois banalisé par les gens, c'est sous-traité par les professionnels de santé. Et malheureusement, quand on regarde les chiffres, il y en a énormément. C'est la pathologie la plus fréquente en médecine du sport, et de loin. Et donc, j'aime déjà cet aspect. C'est quelque chose où on ne se rend pas compte à quel point ça peut perturber un membre inférieur d'avoir une mauvaise stabilité de cheville. Et j'aime aussi l'aspect que c'est banalisé par nos patients. C'est aussi, comme je disais, un petit peu peut-être maltraité, on va pas assez loin aussi, on remet les gens un peu trop vite sur leurs activités. Et donc, j'aime cet aspect-là dans l'articulation. Et puis, à l'instar de ça, on se rend compte que dans la littérature, en fait, les gens publient dans le genou, sur la hanche, sur éventuellement le dos, la lombalgie. C'est des champs, tu vois, scientifiques, où il y a énormément de publications, où tu peux avoir beaucoup de connaissances. Et donc, la cheville, et puis si on redescend encore sur le pied, c'est quelque chose d'un petit peu tout nouveau. Et j'aimais cet aspect-là aussi, où en fait, on commence à construire un petit peu les premières connaissances sur ce complexe pied-cheville. Et puis les muscles du pied, on va dire que ça fait peut-être 10 ans, et 10 ans, on va dire que c'est super récent, qu'on commence à s'intéresser aux muscles du pied, les muscles intrinsèques, les muscles extrinsèques, qu'est-ce qu'ils font, la force des orteils, pourquoi c'est important. Il y a pas mal de chercheurs et de groupes de recherche qui sont là-dessus depuis, voilà, à peu près 2012, début 2012. Donc, on rentre dans ce début-là, et moi, par Jean-Benoît Morin qui veut s'intéresser à ça, par moi qui m'intéresse aussi un petit peu à ça, mais je suis curieux de tout. Les gens pensent souvent à tort de me catégoriser dans la casse pied-cheville, etc. Et donc, à la fois dans ma pratique clinique, j'ai un certain pourcentage de pathologie pied-cheville, j'en ai moins qu'avant. Mais je suis plutôt très très membre inférieur, donc je lis énormément sur tout ce qui a trait aux autres articulations, forcément, parce que j'essaye d'avoir une approche que j'appelle holistique, c'est de comprendre l'importance de la hanche sur le pied, du pied sur la hanche, du genou sur la hanche, etc. Si on lit la biomécanique, on se rend compte que y a énormément de liens à faire et que y a des compensations qui peuvent être faites de façon, on va dire, positive comme de façon négative par le biais éventuellement d'une blessure. Et donc, c'est à peu près tous ces aspects-là qui font que j'ai un vrai intérêt pour cette articulation-là. Et puis forcément, dans le cas d'une thèse, il faut que tu fixes un sujet qui soit précis. Tu peux pas dire, je fais ma thèse sur pied-cheville, ça ne veut rien dire. Donc après, on s'est intéressé à la force du pied, notamment la force de l'avant-pied, parce que c'est la chose que tu peux le mieux mesurer au sein du pied quand on parle de force. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait ça dans le cadre de cette thèse-là, tu vois.
J'ai plein de questions, Romain, par rapport à tout ce que tu as dit. J'ai effectivement l'impression que cet intérêt autour du pied est assez récent,
Exact. Ça, c'est vrai.
parce que j'ai cette sensation, donc ça fait à peu près 20 ans que je suis dans la muscu, qu'avant, tu te faisais une entorse, et en gros, on t'étirait les mollets, et puis tu repartais, on disait, voilà, c'est bon, t'as gagné de la souplesse, t'as fait un peu d'extension, d'extension, t'es monté sur la pointe, voilà, t'as fait des mollets debout, des mollets assis, classiquement, et puis voilà, c'était bon. Est-ce que tu peux préciser, c'est quoi pour toi l'instabilité de cheville et qu'est-ce que c'est exactement?
Une entorse de cheville, si on l'a définie, c'est un épisode traumatique de la cheville qui a amené à une torsion de cheville, principalement, on va dire, dans un plan frontal et plus ou moins sagittal, qui a amené à une interruption en fait des activités quotidiennes ou sportives d'un jour. Si tu définis scientifiquement une entorse, ça va être ça. Et on rentre dans le cas de personnes qui font donc ces épisodes-là, qui sont plus ou moins arrêtés. Et il y a le plus ou moins arrêté qui fait souvent le nid à l'instabilité chronique, qui pour elle est le fait en fait d'avoir fait une entorse de cheville et après d'avoir soit récidivé, c'est-à-dire d'en avoir fait plusieurs, soit d'avoir des épisodes de torsion. Et le souci de la torsion ou les giving way, c'est les gens qui justement, oh mais ça a tourné, mais ça m'a fait mal quelques heures, mais maintenant ça va, ça n'a pas gonflé, etc. Ces torsions-là sont souvent en fait malheureusement banalisées, comme tu l'as dit. Parce qu'il y a, y a, y a moins de phases aiguës, c'est-à-dire de la cheville qui gonfle, qui est douloureuse, comme on peut avoir sur classiquement les premières entorses où là on a été arrêté, là la cheville a gonflé. C'est souvent en fait que on a eu des ruptures partielles ou totales ligamentaires et donc on n'a plus de dégâts ligamentaires ou de ligaments abîmés après dans les prochaines torsions. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas ces notions d'œdème ou de phase inflammatoire importante, si tu veux. Sauf qu'on se rend compte que c'est le cartilage aujourd'hui qui impacte dans ces torsions un petit peu. Non, mais c'est une petite entorse, on dit souvent ça, tu sais. Non, ça, c'est que c'est pas une vraie entorse, voilà. Je cherchais le mot, c'est souvent, j'entends ça à longueur de journée. Et donc, ces notions de torsion, de sentir sa cheville instable, etc. Eh bien, malheureusement, c'est la porte d'entrée à l'arthrose, qui est malheureusement la dernière étape de ce que l'on appelle la cascade catastrophique, donc entorse, récidive, instabilité et arthrose. Et ça, malheureusement, l'arthrose de cheville, on ne sait pas faire aujourd'hui. Parler à des chirurgiens, ils vous disent qu'on a 25 ans de retard sur la prothèse de cheville. C'est pas comme le genou, c'est pas comme la hanche, qui sont des articulations où on arrive à l'arthrose par dégénération de la structure osseuse, c'est du cartilage, alors que la cheville, c'est une articulation où l'arthrose est post-traumatique. 26 ans, c'est un petit peu la date à laquelle, si tu veux, tu fais ta première entorse et tu développes après, 26 ans après, tes premiers signes d'arthrose. Exemple d'une patiente que je reçois hier, qui fait sa première entorse à 14 ans, aujourd'hui qui arrive dans notre service en disant, là, j'ai fait une torsion de cheville, je ne comprends pas. D'habitude, ça fait pas mal ou quelques heures, mais là, ça fait 3 semaines à moi que ça me fait vraiment mal. Et puis, on fait un IRM, on se rend compte que ben voilà, le cartilage est attaqué et que ben, si tu fais, je lui dis, première entorse, c'était quand pour vous? Elle me dit 14 ans. Je fais mon 14 plus 26, vous avez quel âge aujourd'hui? J'ai 40 ans. Tu vois, donc c'est des histoires en fait qu'on voit très fréquemment. Et donc ça, c'est un souci à la fois en fait sur l'articulation en elle-même. Et puis, je te parlais de la compensation, mais on se rend compte qu'en fait, avoir une instabilité distale au niveau pied-cheville amène à éventuellement des déficits aussi qui sont liés à des déficits musculaires, mais pas toujours des déficits d'équilibre postural, de proprioception. Mais ça, après, ça peut engendrer malheureusement aussi des choses sur l'articulation du genou. Il y a un vrai lien quand même avec notamment, je pense souvent, le ligament croisé ou le syndrome fémoro-patellaire ou la tendinopathie rotulienne, qui sont des pathologies aussi de manque de contrôle ou d'absorption, si on prend le syndrome fémoro-patellaire et le tendon rotulien. Et avec des gens, quand tu regardes leurs antécédents, ben, sont en instabilité chronique, mais en fait, ça ne rentre pas dans leur discours, si tu veux. Il faut aller les chercher dans l'examen ou quand tu leur poses des questions, c'est-à-dire, ils te disent toujours, ah, j'ai eu ça à la hanche, ça au dos, ça à l'épaule, mais en fait, la cheville, ça n'intervient jamais. Et après, tu dis juste la question, et vous tordez la cheville, ça vous arrive? Ah ouais, peut-être une fois par semaine, tu vois. Donc, c'est ça, cette banalisation, en fait, aussi.
J'ai encore plein de questions, tu m'ouvres plein de portes, Romain. Quel âge tu as, Romain?
J'ai 28 ans.
28 ans. Donc j'ai 10 ans de plus que toi. Et quand j'étais gamin, je me souviens que comme la musculation du pied ou les muscles du pied, on s'y intéressait pas. Tu sais, on disait que tu avais soit les pieds plats, les pieds creux. Tu avais des gens, on voyait les pieds qui s'affaissaient vers l'intérieur, rarement vers l'extérieur. Et donc on allait chez le podologue. Je fais une généralité voulue hein, pour le podcast, mais on voulait pas. Et donc, on te mettait des semelles pour essayer de compenser ça. J'ai l'impression qu'avec tout ce que tu dis, en fait, ce qu'il faudrait, c'est déjà muscler le pied, quoi.
Alors, on va dire c'est une porte d'entrée. Le pied plat et malheureusement aussi le pied plat est quelque chose qui on n'a pas une définition exacte parce que tout le monde caractérise un pied plat éventuellement de différentes manières. Les gens vont dire, ah, mais c'est un pied qui rentre vers l'intérieur. Il y en a qui vont dire, ah, ben non, c'est un pied où on ne voit pas la courbure de l'arche. Il y en a qui vont vous dire, non, mais c'est plutôt un pied où il faut avoir un score qui est basé sur, si on parle du foot posture index, qui est un score, on caractérise les pieds en supinateur, neutre, pronateur. Bon, ben, un pied plat, c'est un pied pronateur. Donc, en fait, il y a 15 000 définitions. On a souvent tendance à dire que le pied plat, c'est quelqu'un qui n'a pas d'arche. Et si on prend l'arche, on parle de l'arche médiale du pied, donc qui est l'arche à l'intérieur du pied. Et ça, on se rend compte qu'en fait, c'est une variation anatomique. Le pied, c'est en fait l'articulation du corps humain qui a le plus évolué au fil des millénaires par rapport à nos ancêtres, notamment les singes, par rapport au fait qu'on est passé d'une marche quadrupédique à une marche bipédique. Et donc, le pied, il a vachement évolué. Et cette évolution a amené à énormément de variations anatomiques. Ce que je dis souvent aux gens, c'est si on se met tout nu là dans la salle, en formation, eh bien, on va se rendre compte qu'en fait, la partie du corps qui, entre guillemets, a le plus de variations entre nous, ça va être le pied. On va aller avoir des gens qui ont le deuxième orteil le plus grand, des gens qui ont justement une hauteur d'arche un peu plus importante, un pied qui rentre comme ci, comme ça, etc. Et donc, en fait, cette particularité anatomique, on se rend compte au fil là, des sciences et de la recherche, que la vérité statique, c'est-à-dire comment mon pied est en statique, comment il est anatomiquement, eh bien, peut je dirais, peu d'influence sur comment mon pied fonctionne en dynamique. C'est-à-dire comment mon pied bouge et se comporte en dynamique. C'est pour ça qu'on commence à essayer au niveau du pied, si tu veux, de s'écarter d'une simple évaluation morphostatique, statique. Tu vois souvent, tu as souvent peut-être toi eu même l'expérience, tu sais, tu montes sur la plaque,
Voilà,
le
on voit tes
miroir,
pieds, on
etc.
voit tes empreintes et
Exactement.
voilà.
Donc, tu es debout, etc. On te regarde, on dit, ah, mais c'est comme ça, donc ça va être comme ça. Tu vois, on fait le lien. Comme tu es comme ça debout, tu ne bouges pas du tout, mais je vais t'expliquer comment ça va se passer à 35 km/h. Donc, ça m'a toujours fait rire, ou sourire plutôt. Et donc, en fait, cette vision statique, aujourd'hui, je suis très content que la littérature et que des groupes de recherche commencent à nous apporter une vision, ce que moi j'appelle dynamique, avec cette évaluation neuromusculaire du pied et notamment la force du pied. Parce que sur la force du pied, eh ben, c'est un fonctionnement, tu vois, dynamique avec comment le système nerveux active tes muscles du pied pendant que tu marches, comment ces muscles du pied te permettent d'absorber les forces de réaction, comment les muscles du pied te permettent de propulser. Et puis voilà, donc c'est comme ça en fait que j'explique tout simplement aux gens, c'est-à-dire je leur dis, voilà, vous avez cette morphologie du pied, cette statique du pied, ça peut, et je dis toujours ça peut, par exemple, quelqu'un qui a un pied pronateur, donc un pied qui a plutôt avoir des tendances à rentrer vers l'intérieur, je leur dis juste qu'en dynamique, ça peut éventuellement amener à une pronation du pied ou une rentrée du pied vers l'intérieur un peu plus importante, donc à surcharger la partie médiale. Ça, c'est ce que je leur explique. Après, je le vérifie en dynamique. Et surtout, moi, dans mon côté évaluation, par exemple, musculaire, je me dis, bon, ben, les muscles, tu vois, qui sont freinateurs ou qui, on va dire, absorbent un petit peu les forces intérieures, pied-cheville, ben, doivent être un petit peu plus forts par rapport à cette morphologie de pied-là, si tu veux. Je le vois un petit peu comme ça, c'est-à-dire, ça me permet de créer une hypothèse, mais c'est absolument pas pour moi une finalité, la morpho du pied. Au contraire, la finalité, je vais la voir sur des évaluations dynamiques et neuromusculaires, et notamment l'évaluation de la force du pied, ouais, par exemple.
Tu dis que tu évalues aussi en dynamique. Est-ce que tu remarques des différences, je vois en musculation pour les autres muscles, en fonction de la vitesse à laquelle tu fais ta répétition, du poids que tu mets, donc du nombre de répétitions, tout ça, le recrutement musculaire va varier. Et est-ce que c'est pareil pour le pied? Si je cours à 10, à 15, à 20, à 25, ça va s'activer différemment au niveau des muscles du pied, vu que tu parlais
Ouais,
de MG tout à l'heure?
exact. Ouais, exactement. Le pied, c'est un feignant, c'est-à-dire que, en tout cas, les muscles du pied, je dis le pied, mais les muscles du pied sont assez feignants. C'est-à-dire que si tu leur proposes pas grand-chose, eh ben, ils vont pas s'activer beaucoup. Ils ont une capacité qu'on a réussi scientifiquement à mettre en évidence, c'est la capacité de je parlais en anglais, mais ça, low it fine tuning, ça veut dire capacité à s'adapter à la charge appliquée. Et donc, on sait par exemple que quand tu es debout sur deux pieds et que tu passes sur un pied, eh ben, c'est à ce moment où tu passes sur un pied, c'est-à-dire tu as ton poids du corps sur l'intégralité de ton pied, que tu commences à avoir de l'EM, une activité EMG un petit peu significative, si tu veux, de façon inconsciente. Indépendamment de contracter, de vouloir contracter des choses, c'est-à-dire si on met des électrodes sous ton pied quand tu es sur un pied, c'est là où ça commence un petit peu à s'activer. Et donc c'est toujours comme ça aussi que j'ai après développé un peu des exercices que j'ai appelés des exercices en surcharge, c'est-à-dire essaye de faire une flexion d'orteil ou même monter sur pointe de pied si tu veux avec de la charge, ça va être déjà une activité où le pied va beaucoup mieux répondre que de faire une flexion d'orteil, tu vois, assis, où l'activité musculaire déjà est beaucoup moindre et tu vas avoir beaucoup moins d'effet. Et ça, c'est la même chose après à la marche, enfin à la course, etc. C'est-à-dire que la variation de vitesse vont amener forcément aussi à une augmentation de l'activité musculaire. On sait que l'activité musculaire, elle n'est pas forcément liée toujours à la force exercée au sein du pied, mais peu importe, ça veut dire que forcément, le pied est très versatile, c'est-à-dire qu'il s'adapte, il essaye de s'adapter à ce que tu lui proposes, et donc, à l'instar des autres articulations, il est également comme ça. Donc, autant lui proposer des choses un petit peu sérieuses, sinon, comme j'ai dit, il est feignant et on va avoir un petit peu d'effet. Donc, ça me fait sourire aussi les exercices un peu assis. T'sais. Je griffe la serviette, je mets un élastique sous les orteils, je suis assis, je fais mes. En fait, le gap pour moi entre cet exercice-là et après voir quelqu'un courir et voir comment son pied bouge en course et les forces exercées à l'intérieur du pied, au sein du pied, ça m'a toujours fait sourire ce décalage-là. C'est pour ça que on baptise parfois des fois l'approche pied un peu l'approche lourde ou la, en anglais, on appellerait ça la strong approach, etc. C'est un peu comme ça qu'on essaye de se démarquer de ce qui se fait ou de ce qui est proposé un petit peu sur les exos du pied en ce moment, quoi.
J'ai l'impression que ce que tu dis pour le pied, c'est un peu ce qu'on disait il y a peut-être 10, 15 ans pour le fessier, où on parlait grossièrement d'amnésie du fessier, où à force d'être assis dessus, eh ben, en fait, t'avais du mal à l'activer, quand t'étais debout, quand tu faisais des exercices. Là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. T'es debout sur les deux pieds. Donc, tout ton poids repose sur tes pieds. Mais en fait, comme tu utilises jamais ces muscles-là, en fait, bah, ils subissent. Et comme ils s'activent jamais, c'est un peu une amnésie des muscles du pied, quoi, si tu fais rien.
Alors, on va dire que on connaît pas encore les origines de l'inhibition de ces muscles-là, mais par contre, on sait que c'est des muscles qui sont très inhibés. Quand on parle d'inhibition, c'est plutôt qu'il y a beaucoup de personnes. Si tu prends 100 personnes dans la rue, il y aura et que tu essayes de regarder leur capacité à essayer de contracter ces muscles. Si on parle, je parle plutôt là des muscles extrinsèques, donc. Ils sont vraiment à l'intérieur du pied, et eh bien en fait, tu te rends compte que, il y aura beaucoup de gens qui auront du mal en fait, à activer totalement l'ensemble des muscles ou l'ensemble de pourcentage des fibres musculaires. Et donc, je suis d'accord avec toi que cette inhibition-là qu'on trouvait dans le fessier, on l'a également sur le pied. C'est pour ça que. Pour certains, en fait, faire des exercices de coordination des orteils, ces choses-là, c'est super, super dur parce que déjà, en fait, ils ont cette inhibition-là qui est quelque chose qui a été créé. Alors après, il y a 15 000 hypothèses. Il y a les pros, t'sais, les pros grosses chaussures qui vont nous
Bien
dire
sûr.
que c'est parce que les gens portent des chaussures que c'est comme ça et donc il faut marcher pieds nus dans la rue, etc. Il y a différents champs là-dessus. Je suis un peu à l'écart de tout ça. Le fonctionnement du pied, il est très simple. C'est-à-dire, si tu as un matériel, quand je dis matériel, c'est une chaussure qui te permet d'emmagasiner de l'énergie, si tu veux, et de la restituer. Le muscle, comme je t'ai dit, il est très versatile, il est très intelligent aussi, le pied. Donc, en fait, il va moins produire de travail négative et positive, par exemple, d'emmagasiner et restituer l'énergie. Donc forcément, ça va pas forcément aider au développement, si tu veux, de ta musculature du pied. Et inversement, si tu as des chaussures qui produisent, limite, en fait, c'est même pas le débat petite, grosse chaussure ou pas, c'est le débat comment ta chaussure, ton matériel, en fait, si ta semelle, si tu veux, elle absorbe, mais elle restitue rien. Le pied, il va le savoir. Donc, le pied, il va se dire, OK, la chaussure, elle absorbe, mais moi, il va falloir que je restitue. On se rend compte qu'en fait, l'interaction entre pied et chaussure, c'est celle-là. C'est que le pied s'adapte à la chaussure, à ce que propose la chaussure. Et donc, en fait, c'est même pas le débat minimaliste, maximaliste et tout ça. C'est plutôt le savoir un petit peu comment le matériel est. Et c'est pour ça, notamment sur aujourd'hui les semelles carbone, tu vois, les chaussures carbone, ça aussi c'est les nouvelles conversations d'aujourd'hui. Ben, on sait que ces semelles-là forcément emmagasinent et restituent de l'énergie et donc font en sorte que ta musculature, notamment du pied, travaille aussi un petit peu moins. Donc c'est plus économique. Donc je consomme moins d'énergie, tu vois, parce que en fait ma ma musculature n'a pas besoin de faire ce travail-là parce que j'ai un apport au niveau du matériel propre à la chaussure. Donc il faut un peu le voir comme ça, plutôt pied intelligent par rapport à ce que je lui propose. S'il y a quelque chose, tu vois, qui est pas assez chargé, il va être feignant. Si j'ai une chaussure qui est adaptée, qui me permet en fait par son design de magasiner et restituer de l'énergie, mon pied va aussi être feignant et inversement parlant. Donc en fait, il faut plutôt voir un peu comme ça.
J'ai une question par rapport à ce que tu as dit aussi, par rapport à un truc qui passe pas mal sur les réseaux sociaux, où on voit pas mal de pseudo-spécialistes, hein, je vais dire ça comme ça, qui disent que c'est pas grave d'avoir de l'arthrose, que en gros, si t'as pas mal, tout va bien. Ton but, c'est juste de maintenir, on va dire, tes fonctions articulaires, musculaires, je simplifie, et que c'est pas très grave. Or, de ce que je comprends avec la cheville, c'est qu'en fait, tu tords, entre guillemets, je caricature aussi, souvent la cheville. Tu ne sens pas que tu te tords, c'est devenu normal pour toi. Et en fait, tu arrives à un moment où tu n'arrives plus à compenser, où toi, ton expérience, tu n'arrives plus à compenser par la musculature du pied, cette arthrose, et où en fait, t'es fourré.
Faut quand même différencier. Souvent, les gens disent ça sur l'arthrose du genou. Tu vois, on a souvent maintenant, la course à pied peut-elle, est-ce qu'il faut courir quand on a de l'arthrose du genou? Tu vois, ces grosses idées préreçues. Et là, on commence un petit peu à les casser par à la fois des apports d'experts, des apports scientifiques, tout ça. Si on reste sur la cheville, la différence, comme je l'ai dit, c'est que l'articulation de la cheville, contrairement au genou ou à la hanche, c'est quand même une articulation avec de l'arthrose post-traumatique, ce qui touche beaucoup plus de gens, beaucoup plus jeunes. Si tu regardes la littérature sur l'arthrose de cheville, tu te retrouves avec des gens qui ont entre 30 et 50 ans. Et donc, en fait, tu as encore un paquet d'années à faire, hein, avec ça. Et il faut donc éviter que cette cheville justement devienne arthrosique douloureuse. Et pour être arthrosique douloureuse, eh ben souvent c'est regagner de la stabilité. Pour regagner de la stabilité, il faut forcément avoir une fonction de cheville qui soit bonne. Et la fonction de cheville, elle est dépendante. Un des paramètres, ouais, c'est éventuellement la force musculaire, mais ça peut être aussi la proprioception, ça peut être aussi la capacité d'équilibre, etc. Mais on se rend compte que cette arthrose-là au niveau de la cheville, elle est, comme tu dis, un petit peu en fait sous silencieuse. Voilà, chercher le mot, pardon. Elle est silencieuse et un jour, tu le payes, c'est-à-dire tu commences à développer des douleurs, si tu veux, qui sont absolument plus des douleurs liées à des structures plutôt ligamentaires, tu vois, ou tendineuses, mais vraiment liées en fait à des réponses osseuses. Et c'est là où je suis d'accord avec toi que si tu as de l'arthrose de cheville, mais que ta cheville est stable et que tu n'as pas de douleur, c'est ce à un moment donné où je sais qu'il y a des signes d'arthrose dans les chevilles, je me dis, bon, mais ça, je ne pourrais pas le modifier. Par contre, je vais essayer de me donner une stabilité de cheville et une fonction de cheville qui fait que la personne a pas mal dans sa vie quotidienne, fonctionne super bien, fait plus de torsion pour justement parer, augmenter, tu vois, ces dégâts, ces contraintes-là. Et donc l'aspect, pardon, et je finis juste parce que pour l'aspect musculaire, comme tu le dis, il est important parce que l'os, contrairement au muscle, eh ben, il dissipe beaucoup moins bien les forces de réaction au sol, tu vois. Et donc l'aspect musculaire, la force musculaire te permet aussi de diminuer les contraintes appliquées sur l'os. Et donc, réaugmenter la capacité musculaire chez quelqu'un qui a des signes d'arthrose ou qui est en instabilité. Et on sait que si on ne le sort pas de cette cascade-là, il va finir par développer ça. Et ça rentre là-dessus. Un des choses intéressantes, c'est que scientifiquement, les instables chroniques de cheville ont dans certains mouvements plus de force de réaction au sol. Et ça, on se dit que pour la santé du cartilage à long terme, c'est pas efficace, c'est pas bon du tout, en fait.
Est-ce que, je ne sais pas s'il y a encore le recul vu que c'est assez récent, est-ce qu'on ne conseillerait pas de base un renforcement Des muscles du pied, en termes de prévention, même si le terme est un peu à débat, pour justement éviter ces problèmes de cheville à l'avenir, vu que tout le monde, entre guillemets, se tord la cheville sans s'en rendre compte.
Ouais, alors là, c'est dur la prévention. Hein. C'est un mot, et des fois on dit c'est un gros mot parce que c'est compliqué de prévenir les choses forcément. Mais si on part d'un aspect, si on part uniquement d'un aspect, est-ce que c'est bien, tu vois, d'avoir cette qualité-là ou ces choses-là et sur la cheville, il faudrait dans la programmation ou dans des exercices. Regarder qui dans ce complexe pied-cheville fait le plus de travail un petit peu biomécanique, ouais. Et donc là, si on prend tous les muscles dans la pied-cheville, on se rend compte quand même que ben, le mollet, ça reste un muscle qui va être super, super important. C'est le muscle le plus fort de ce complexe-là. C'est lui qui fait plus de choses mécaniques au niveau de la cheville, à la fois pour absorber et pour propulser. Et puis, à l'inverse, si on reste sur un plan frontal, c'est-à-dire justement contrôler un petit peu les torsions internes ou externes de cheville, le couple inverseur-éverseur va être aussi important. Donc, peut-être ces trois muscles-là à cibler sur une programmation. Même si, en fait, moi, j'adore la prévention individualisée, c'est-à-dire, dis-moi de quoi t'es faible ou dis-moi tes déficits et je te donnerai, en fait, ton programme de prévention. Mais si moi, je devrais faire un truc un petit peu général là, j'essaierai forcément d'aller éventuellement travailler, tu vois, ces muscles-là avec aussi, tu te rends compte que les gens, juste ces capacités d'équilibre, tu te rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui n'utilisent pas leurs pieds comme outil d'équilibre. C'est-à-dire, quand ils se mettent sur un pied, ça bouge de partout. Ils n'ont pas cette conscience-là aussi d'utiliser tes orteils pour créer l'interaction avec le sol, tu vois, on parle souvent d'ancrage d'orteil. Ça aussi, je trouve, c'est quelque chose qui peut être vachement intéressant d'avoir ces stratégies d'ancrage au sol qui sont aussi vachement importantes sur notamment l'équilibre postural, par exemple.
Ta thèse, elle porte sur quoi exactement? Qu'est-ce que tu cherches à savoir?
Ma thèse s'intéresse à la force des orteils, on dit des orteils, articulation métatarso-phalangienne, peu importe. Et donc, l'idée de la thèse, c'était se dire, quand on pousse, quand on est dans la phase de propulsion, c'est-à-dire que ce soit à la marche, à la course, en sprint, en changement de direction, en saut, on a en fait une triple flexion du membre inférieur. Donc, tu as une activation des extenseurs de hanche, grand fessier, ischio. Tu vas avoir le mollet au niveau de la cheville. Et puis, la partie, en fait, transfert, si tu veux, toute cette force-là, ça va être l'avant-pied. Et donc, l'idée de la thèse, c'était de se dire, est-ce que les gens qui ont plus de force autour de l'avant-pied produisent et transmettent un peu mieux la force au sol dans des tâches explosives. Donc, elle est découpée en trois parties. La première partie, ça a été de développer un appareil qui permettait de façon précise de mesurer cette force des orteils. Donc, c'est un truc que j'ai créé au départ en bois et mon père dans notre garage. Et ensuite, qu'on a retravaillé au labo, que j'ai envoyé dans une entreprise pour le faire, entre guillemets, de façon un peu plus différente, mais beaucoup plus rigide, avec un capteur de force sur une plaque pour mesurer la force des orteils. Et puis après avoir, entre guillemets, créé cet outil-là, ça m'a servi pour mesurer la force des orteils chez, on va dire, plein de sportifs de très bon niveau national sur ma deuxième étude, par exemple, dans cinq sports, alors athlétisme, football, rugby, basket et handball. Des sports où il y a de l'accélération, de la décélération, des changements d'érection, des sauts. C'est pour ça qu'on a pris ces sports-là. Et l'idée, c'était de savoir est-ce que les gens qui ont plus de force du pied, après, lorsqu'on évalue leur sprint sur des plateformes de force incrustées dans le sol, est-ce qu'ils produisent plus de force, justement, et ils transmettent mieux, c'est-à-dire qu'ils ont un pied propulsant un petit peu meilleur. C'est tout l'idée de la thèse là-dessus. Et puis la dernière partie de thèse, c'est est-ce que quand on renforce le pied par le biais d'un protocole précis, est-ce que tu améliores justement ces paramètres de propulsion lors des tâches que je t'ai citées là? Donc en fait, c'est à peu près ça qui m'anime depuis 4 ans sur mes travaux.
Et quand est-ce qu'on aura les résultats alors?
Alors il y en a quelques-uns, c'est-à-dire déjà, j'en ai pas parlé, mais si on revient à ce qu'on s'est dit sur le statique du pied, la morphologie du pied, il n'y a pas de lien entre la force des orteils et le fait d'être pied plat, pied pronateur, pied neutre, pied supinateur. J'ai une arche qui est basse, j'ai une arche qui est haute, etc. Ça a été une nouvelle fois, entre guillemets, un apport scientifique de se dire, bon, ben, en fait, si on regarde que le pied, ça ne nous indique pas de comment il est fort, si tu veux. Et souvent, c'est drôle parce que je fais aussi de l'échographie des muscles du pied pour voir aussi leur volume. Et ce qui est marrant, c'est que on caractérise souvent le pied plat par quelqu'un qui n'a pas d'arche. On ne voit pas, tu sais, la courbure de l'arche, mais en fait, souvent, des fois, la courbure de l'arche pour certaines personnes, c'est qu'elle est due à une hypertrophie des muscles du pied, notamment d'un des muscles du pied qui est vraiment sous l'arche, l'abducteur. Et en fait, c'est des fois, en fait, les gens qui ont des pieds plats qui ont des pieds plus forts, tu vois, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pieds plats, pieds faibles, etc. Aussi par rapport à ça, par rapport à cette hypertrophie du pied, en fait, qui tout le corps musculaire est sous l'arche, donc il n'y a pas de courbure de l'arche, et donc on se trompe un peu. Le meilleur exemple, c'est Usain Bolt. On a toujours considéré, enfin, on a toujours dit qu'Usain Bolt avait les pieds plats parce qu'on ne voyait pas son arche quand on le voyait marcher ou courir pieds nus. Sauf que jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas qu'Usain Bolt ne savait pas produire de la force à haute vitesse et donc n'avait pas des qualités de pied intéressantes. Donc voilà sur une des choses qu'on a trouvées. Et puis, on s'est rendu compte, et ça fait le lien sur la haute vitesse, que les gens qui avaient le plus de force au niveau des orteils, c'était les gens qui, à haute vitesse, et là je parle notamment du sprint, parce que c'est vraiment dans cette tâche-là qu'on a trouvé une belle association, c'est l'association entre la force du pied et la capacité à produire de la force au sol en un minimum de temps, tu vois, une capacité à être, on va dire, très explosif au niveau du sol, très réactif au niveau du sol, lorsqu'on est à vitesse maximale, alors après environ 30 mètres de sprint. Donc, on va dire que tout ce que les coachs d'athlètes pensent ou disent, mais sans avoir en fait aucun aujourd'hui données scientifiques, ben on met un petit peu de l'eau au moulin par rapport à ça, cette importance du pied, notamment lors des choses où il y a de la vitesse au niveau du corps, et plutôt en fait un corps qui est positionné haut. Et donc, on n'a pas trouvé de choses sur l'accélération, par exemple, tu vois, mais on a trouvé vraiment des choses à vitesse maximale. Ça, c'est une des trouvailles. Et la troisième qui est en cours sur l'évolution de la force du pied lors d'un protocole, on se rend compte que, alors, là, je vais juste parler du protocole qu'on applique, ça peut faire une généralité, mais il semblerait que, c'est un protocole, moi, qui dure 8 semaines, mais il semblerait qu'on ait déjà, en fait, des effets intéressants au niveau de la musculature du pied, à la fois en hypertrophie, en force musculaire, intéressants à partir de, tu vois, 5 à 6 semaines. Donc, ça, c'est assez intéressant parce que moi, j'ai créé ce protocole-là pour qu'il ressemble un peu à la vraie vie, c'est-à-dire il y a 2 séances par semaine, mais qui durent 30 minutes. Donc ça représente à peu près 1 heure par semaine. Et que cette approche un peu lourde, un peu intense, où on essaye de faire plutôt du qualitatif, permet en fait d'avoir des effets un peu plus rapides que ce que moi j'aurais pensé. Ça, c'est assez intéressant. Et surtout, en fait, si on compare tous les autres programmes de force du pied ou de renforcement du pied, c'est qu'on a des effets sur la force et l'hypertrophie, notamment, qui est équivalente, mais avec 2 fois moins de volume associé, si tu veux. C'est-à-dire que on fait 2 fois moins de séances. Nous, il y a 16 séances, puisque 2 séances par semaine, 8 semaines, ça fait 16 séances à 1 heure par semaine, ce qui fait, en fait, simplement 8 heures de travail cumulé, ben tu te retrouves à avoir les mêmes effets que des gens qui font du travail de pied de façon un peu quotidienne, c'est-à-dire je fais mes 60 contractions de short foot par jour, ou je marche aussi en minimaliste un petit peu tous les jours, etc. C'est des choses qui sont un peu lourdes. Moi, je trouve en termes de, tu vois, de ton associé, il y a plein de choses qui sont intéressantes dans le développement des qualités. Mais le but aussi de cette thèse-là, c'était d'avoir un protocole qu'on a baptisé, tu vois, Harder, Better, Faster, Stronger. Donc essayer de faire un truc un peu lourd, avec des effets un peu rapides, pour que ça aille un petit peu plus vite, dans le sens, pas bâcler la chose, mais avoir un truc et efficacité du temps, plutôt que se dire, bon, ben, en gros, si tu veux, tu peux gagner 30% de force en plus, mais tu dois t'y mettre 5 fois par semaine, versus, bon, ben, tu peux gagner 30% de force en plus, mais tu dois avoir 2 séances par semaine. C'est pour moi, tout l'intérêt, il est là, sur plein de raisons, en fait.
Est-ce qu'à un moment, tu penses écrire un livre sur le sujet? Parce qu'on voit que tu investis beaucoup le domaine. Et je me dis que ce serait intéressant pour des gens comme moi qui sont intéressés par l'entraînement d'avoir un peu tes conclusions qui sont amenées à évoluer parce que tu vas te poser plein d'autres questions. Mais est-ce que c'est un projet ou pour l'instant c'est un peu trop tôt pour toi?
Ah, il y a plein de. Tu sais, la thèse, t'es dans ton truc, dans ton machin, mais je suis toujours quelqu'un qui se projette sur 5-10 ans à chaque fois. Il y a plein de choses qui viennent. Un livre, c'est forcément quelque chose auquel je penserais, puisque je pense qu'il y a plein de choses à dire ou à montrer, tu vois, sur ce complexe pied-cheville-là, à la fois en termes de renforcement. Je pense que on nous connaît aussi pour ça, hein. Je pense, nous, parce que je me mets aussi avec mes compères passionnés de pied-cheville comme Massemba Mbaye ou François de Fourcher. Puis après, on a nos petits padawans, nos petits étudiants qui poussent aussi derrière, qui vont faire des trucs superbes. Donc un livre, ouais, je pense que ça pourrait vachement intéresser. Et ici, formation en ligne ou formation aussi, tu vois, avec des vidéos d'exemple. J'aime beaucoup la formation aussi en ligne, mais notamment, tu vois, quelqu'un qui est dans une salle de gym, qui a son tableau blanc et qui dit, voilà, on va faire tel exercice, ça va travailler ça, on le fera comme ça. Moi, j'aime beaucoup ça aussi parce que, notamment, si on va sur la notion des coachs ou des prêts physiques, ça les intéresse particulièrement, tu vois, ces choses-là. Donc ça, c'est les choses auxquelles je pense. Et puis si tu parles de ce qu'on a développé sur la mesure de force des orteils, tout le monde m'a dit, mais pourquoi tu commercialises pas le truc? Pourquoi tu n'essayes pas de le redévelopper encore un peu mieux que ce que tu as fait pendant ta thèse et qui sert en fait dans les cabinets, ou pas que dans les cabinets de kiné, mais qui sert aussi dans le monde de l'entraînement, d'avoir un appareil d'évaluation, tu vois, de la force des orteils. Donc, tu vois, tu as ces trois aspects-là, le livre, l'aspect un peu produit sur l'ergomètre de mesure de force du pied, et puis éventuellement la formation avec des vidéos, etc., etc. Julien Astouric me propose toujours, toutes les semaines quasiment, de faire une conf ou un workshop sur 15 000 sujets. Donc ouais, j'ai aucune pression, mais je sais qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, quand il y a beaucoup de demandes, ça veut dire que c'est éventuellement intéressant, tu vois.
Ouais, bah en fait, parce que je te pose cette question, parce que dans tout ce que tu dis, j'essaye de voir les exercices que tu peux proposer, mais même si j'arrive à les voir, j'ai pas ton expérience, tous les tests que tu as pu faire, tout ce que tu étudies. Donc, moi, ça m'intéresserait qu'à un moment, ce soit formalisé, du moins 90% de ce que tu comprends, de ce que tu penses comprendre, en tout cas de ce que tu connais, que ce soit en formation ou en workshop ou n'importe, pour justement pouvoir tester, bah déjà moi-même, sur moi-même, et puis sur d'autres, voir ce que ça donne. Et puis, tu vois, je trouve ça hyper intéressant, hein. On voit que tu es passionné par le sujet et ça donne envie de s'y intéresser encore plus.
Sur les idées d'exo et ces choses-là, il y a plusieurs choses aujourd'hui. Forcément, il y a mon article dans SportSmith où j'ai mis pas mal de vidéos d'exemples. Comment développer la force de l'avant-pied, comment développer la force du médio-pied, comment développer la force du premier rayon, le gros orteil. On n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais voilà. Comment développer le couplage entre pied et mollet. Donc sur SportSmith, tu as des choses intéressantes. Il y a une autre masterclass qui a très très bien marché avec Julien aussi, sur qu'on avait fait à La Tour un soir, où on montre aussi quelques exos pied-cheville qui aussi vont permettre de voir un peu cette chose-là. Et puis, quoi d'autre? J'ai fait aussi un podcast chez un de tes confrères américains, Joel Smith, donc Just Fly Sport Performance. Très sympa, c'était cool d'ailleurs. Et même chose, il a mis quelques vidéos que j'ai mis en plus, que je lui ai données, et qu'il a mis aussi sur mon podcast, en dessous, tout le script de l'article du podcast. Et puis, forcément, quand la thèse et le protocole sera terminé, l'étude sera terminée, on va créer aussi une vidéo, tu vois, sous format un peu infographie vidéo de démonstration des exos qu'on a mis dans le protocole avec tout le protocole détaillé, tu vois. Donc forcément, je suis aussi profondément attaché à la dissémination des connaissances, parce que c'est des fois ce que je reproche un peu à certains scientifiques ou à la recherche en général, c'est une fois que c'est publié, pour certains, le travail, il s'arrête là, si tu veux, mais on se rend pas compte du nombre de gens qui lisent pas, qui vont pas chercher forcément par manque de temps, par peur de lire l'anglais ou par difficulté à lire l'anglais. Donc c'est à nous aussi, on va dire, chercheurs et scientifiques, d'aller, tu vois, apporter des connaissances aux gens, d'aller publier des choses sous format un peu plus, on va dire, synthétique, etc. Pour permettre justement, tu vois, de faire avancer les choses. Donc, je suis profondément attaché à ça. Toujours la difficulté lors d'une thèse, c'est de passer du temps à créer ces contenus-là, mais globalement, il y a déjà du grain à moudre sur ce que je viens de te dire, ouais, sur les vidéos les exemples en vidéo, par exemple.
Bah, tu peux répondre positivement à la demande de Julien s'il met un maillot de Paris pour venir travailler, je pense. Je pense que s'il fait ça,
Ouais, ça va être compliqué. Ouais, quoique,
ça peut se discuter.
depuis hier soir, et la victoire contre le Shakhtar, il doit être un peu plus heureux que ces dernières semaines, parce que c'est compliqué sous le soleil marseillais là-bas. Mais non, je pense que la seule chose justement auquel il n'aimerait pas que je vienne faire un workshop, c'est si je le fais avec un maillot de Paris. Je pense que là, il me dirait non, là, tu peux rester chez toi, Romain. Tu n'as pas besoin de venir à la tour pour nous former.
Bah, il est drôle parce qu'il m'a envoyé un message, il savait que je faisais podcast avec toi ce matin, pour me dire, dis à Romain que c'est le Kylian Mbappé de la physio.
Ouais, il aime bien dire ça, parce que il y a une chose qui nous fait rire. Alors lui, ce qu'il a fait rire, c'est un petit peu la jeunesse, et donc il y a une chose qui nous fait rire quand Mbappé disait tu me parles pas d'âge, de toute façon c'est comme ça, c'est comme ça. Et à chaque fois qu'il me voit, il me répète cette phrase-là, et c'est vrai que ça nous fait marrer. Mais non, on en discutait dans la voiture avec Julien. La dissémination, elle est vachement importante. Heureusement qu'on a des gens comme toi, comme lui, qui prennent du temps pour interroger des gens. Et ça, c'est des sources de connaissances, justement, qui sont des fois qui changent de beaucoup plus la donne, parfois qu'un article. C'est bête à dire. Moi, on passe des heures à écrire des articles, à faire des statistiques, à écrire la méthodo, à faire de la discussion. Après, on doit s'embrouiller avec un reviewer, et ça peut durer des mois pour qu'enfin ça soit publié. Et des fois, quand tu vois le peu de lecture que tu as sur tes articles-là, donc on est très content d'avoir, tu vois, des capacités d'expression à l'oral, puisqu'on peut faire passer beaucoup plus de choses à l'oral qu'à l'écrit, forcément, grâce à des gens comme toi et Jules. Donc ça, c'est top. Merci, merci à vous pour
Ouais,
ça.
bah c'est parce que je suis intéressé. Comme tu vois, j'ai plein de questions. Je suis intéressé par ton travail et ça ouvre, comme je te dis. Je viens d'une époque où le pied, c'était t'as le pied plat, on te mettait le semelle, t'as le pied creux, on te mettait le semelle, et puis ça s'arrête là. Tu vois,
Ouais, et
et puis on prenait le
puis
truc en statique, comme tu dis. On mettait, on dit, bah
exact.
voilà, c'est comme ça, donc on fait ça, et c'était réglé. Il n'y avait pas de musculation du pied, il n'y avait pas, entre guillemets, de musculation des muscles autour de la cheville. Il y avait la cheville, c'était, je vais caricaturer, mais inerte, et puis il n'y avait rien à faire, quoi. En fait, tu te fais des entorses. Parce que t'avais pas de bol, c'est tout, quoi.
Ouais, y a aussi une notion, et puis dans l'armée américaine, hein, c'était un critère de non d'exclusion. À l'entrée à l'armée américaine, hein, si tu avais un pied plat, ça a changé, je crois, depuis 5-6 ans, mais tu allais en 2002, si tu voulais rentrer dans l'armée américaine, tu avais un pied plat, on disait c'est gentil, mais non, t'es pas fait pour, en fait. Tu vois? Donc voilà, c'est une variation anatomique, il y en a beaucoup dans le pied, et donc ben, cette caractéristique un peu de j'ai pas d'arche, etc. Ça ne veut pas dire que c'est un pied faible, comme je te l'ai dit, il y a aussi des notions de gens qui ont cette morphologie-là parce qu'ils ont une hypertrophie du pied. Et puis sur la cheville, on parle souvent de laxité, tu vois. On confond la laxité qui est quelque chose de génétique. C'est-à-dire juste une capacité d'étirement des structures, on va dire, ligamentaires et capsulaires un peu plus importantes que la moyenne, avec la laxité patomécanique qui est juste, en fait, j'ai plus mon ligament, donc mes os bougent, le ligament est plus là pour retenir mes os. Et donc, moi, je pense souvent à l'exemple d'une petite jeune que j'avais où, de toute façon, on voulait un avis d'expert sur Genève en physio par rapport à ça, mais la maman vient avec sa fille à l'époque, je me souviens, en me disant, bon, on vient vous voir parce qu'on m'a dit que, mais je vous dis tout de suite, ma fille, elle est laxe, le médecin l'a dit, c'est comme ça, elle se tord les chevilles, en gros, c'était le karma, si tu veux. Malheureusement, c'est comme ça, et on peut rien y faire. Et donc, je fais mes critères de Beighton, qui sont des critères. Un score en fait qui caractérise la laxité génétique. Donc tu sais, c'est le est-ce qu'il y a un récurvatum de coude, est-ce qu'il y a un récurvatum de genou, est-ce que tu arrives à toucher tes mains au sol lorsque tu fais une flexion de tronc, il y a le pouce que tu arrives à toucher jusqu'à ton avant-bras, ces choses-là, bref. Et je fais tout mon bilan et c'était drôle de voir qu'en fait il y avait une laxité génétique, forcément généralisée, hein, des deux chevilles, mais elle n'avait qu'un souci à gauche et que dans tout le bilan, en fait, tout était catastrophique à gauche, que ce soit l'équilibre postural, la proprioception, la force musculaire. Il manquait, je ne sais plus, je ne crois pas d'amplitude. Mais voilà, je dis à la maman, je lui explique ce que je viens de te dire là, que. En fait, si c'était vraiment sa laxité génétique, en fait, les deux chevilles tourneraient et votre fille, entre guillemets, voilà, ça serait le karma pour les deux. Je vois pas pourquoi ce serait que la gauche. Et je lui dis, mais en fait, si on prend une évaluation un peu plus, on va dire, générale et neuromusculaire et puis posturale, etc., et dynamique, on se rend compte qu'en fait, il y a pas mal de déficits qui sont uniquement sur le côté gauche. Et donc, si on travaille ça, eh bien, on va résoudre le souci, il n'y a pas de karma, on peut faire des choses, tout ça. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a pas cru du tout. Et elle s'est même plainte à l'ordre des physios de Genève en disant que j'avais contredit le médecin, que la laxité, que j'étais allé à l'encontre du médecin en disant que c'était pas la laxité et que blablabla, tout ça, et etc., etc. Et bref, et donc. Tout ça pour dire que cette histoire-là, ça me fait toujours, j'aime bien la raconter parce que on est des fois dans ce plan-là, on a tellement loin dans l'idée préconçue, tu vois, qu'on a depuis des années que des fois c'est dur de changer des mentalités. Hein. Mais voilà,
Bah, tu vas la revoir dans
c'est
26 ans
ça.
alors.
Ouais, c'est pas que j'ai du mal, mais des fois je leur dis, mais pourquoi vous avez attendu aussi longtemps pour même consulter quelqu'un? Des fois les gens, ils arrivent. tu vois, avec des douleurs ou des déficits qui sont, quand t'es thérapeute, tu te rends compte, mais le tendon, la tendinopathie, c'est la même chose. Tu vois, les gens, ils viennent te voir jusqu'à temps qu'ils peuvent quasiment plus marcher ou sauter ou ce que tu veux. On va dire, mais tu pouvais pas venir quand tu avais tes premiers symptômes et ça aurait été réglé. Parce qu'après, c'est, tu vois, il y a beaucoup de mécanismes qui, même au niveau cérébral, hein, du système nerveux, il y a tellement de neuroplasticité, mais dans le mauvais sens. Après, on rame avec lui pour aller résoudre le souci. Et des fois, tu as envie de dire aux gens, ouais, mais oui, forcément, trouver aussi un bon professionnel de santé, c'est pas toujours évident, parfois. Mais des fois, tu as envie de leur dire pourquoi vous n'êtes pas arrivé plus tôt, quoi. Parce que c'est là, ça va être, on va ramer tous les deux, mais on va pas ramer en 2 semaines, on va ramer un peu plus longtemps, ouais. C'est clair.
Ah ouais, mais c'est parce que tant que tu peux faire, tu as envie de continuer. Tu dis, bah, c'est bon, c'est pas grand-chose, ça va passer. Tu sais, quand tu es très jeune, souvent, ça passe un peu tout seul. Puis plus les années passent, tu dis, ça va passer, puis ça passe de moins en moins, quoi. Et puis comme tu l'as dit, quand c'est trop tard, entre
Exactement,
guillemets, tu dis, ah bah, je viens. Ouais, mais en
ouais. Et
fait, le
c'est
corps,
la
il vient pas séparer, quoi.
neuroplasticité. La neuroplasticité, elle fonctionne aussi, c'est-à-dire tu vas compenser et puis ça va aller. Et puis après, tu vas te retrouver dans ce qui se passe si on reste sur la chie, c'est on part du principe pour beaucoup de patients, les premiers traumas, ils l'ont eu, tu vois, sur la cheville, tout ça. Ça a été plus ou moins rééduqué ou pas rééduqué. Et puis en fait, il va y avoir une compensation. Et un jour, ils te font un beau trauma de genou ou un beau truc sur le genou, tout ça. Et puis, c'est cette mauvaise neuroplasticité, c'est-à-dire que ça a marché un temps. Et donc, ça fonctionnait comme ça. Mais on sait quand même, mécaniquement parlant, ou biomécaniquement, même au niveau de la neurophysiologie, que eh bien, la capacité du système nerveux à comprendre aussi. Que quand tu as une mauvaise réponse, quand tu reçois des informations qui sont pas forcément fiables et bonnes sur une articulation donnée, tu vas ensuite, tu vois, remettre un peu plus de contribution d'une autre partie articulaire. Et c'est là où tu rentres dans cette fameuse mauvaise compensation qui, comme tu l'as dit, arrive des fois un peu plus tard, mais des fois trop tard, quoi. Quand tu t'en rends compte ou quand tu veux aller consulter après, quoi.
Je vois. Romain, je vois le temps qui défile. J'avais plein d'autres sujets à aborder avec toi, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère qu'on aura l'occasion de faire un deuxième épisode, malgré ton emploi du temps, sur une autre thématique que je voulais aborder avec toi. Mais comme ça fait déjà plus d'une heure qu'on est là, je vais te laisser vaquer à tes occupations et je dois aussi vaquer aux miennes. Je voulais te remercier pour le temps que tu as pris à m'expliquer tout ça. C'était passionnant. Je pensais pas que ça me passionnerait autant tes réponses, que j'aurais autant de questions sur le sujet. Je serai évidemment le premier à souscrire à ton workshop ou à ta formation ou à acheter ton livre. Donc, bon, si tu mets le maillot de Paris et que Julien accepte, bon, ça peut se discuter quand même. Ça peut se discuter. En tout cas, c'était vraiment hyper intéressant. Je te vois assez actif sur, assez actif, c'est un gros mot, mais sur LinkedIn, est-ce que c'est l'endroit où les gens peuvent suivre le plus facilement ton travail?
On va dire LinkedIn, Twitter, sûr, c'est là où je mets quand même mes choses que je fais, que ce soit on va dire oui, la publication d'articles ou des choses sur des comptes, des congrès ou des formations que je vais donner. Et puis aussi un petit peu Instagram, c'est quand même un compte Instagram moitié pro, moitié perso, même si c'est de plus en plus très tourné pro. Donc voilà là-dessus où on peut me suivre. Très simple. J'ai pas de pseudo, de machin, de je m'appelle foutant que l'expert arroba je sais pas quoi là. Je m'appelle c'est Romain Tourillon, donc vous pouvez me trouver dans tous les canaux. C'est très simple, les 3 comptes, c'est ça. Et puis j'ai juste une petite pub pour les amoureux pieds-chevilles, peut-être avant ce podcast et je l'espère après. On organise le plus grand congrès international sur la cheville. C'est tous les 2 ans, ça passe de continent en continent. On a eu décroché la candidature pour cette année pour la France. Donc j'organise ça avec mon compère François Fourcher. Ça se passe à Strasbourg, au Palais des Congrès. Donc il y a les meilleurs experts pieds-chevilles sur plein de thématiques, que ce soit de la thérapie manuelle, du renforcement, des choses aussi liées, tu vois, à la rééducation à la course, mais sur pathologie pied-cheville. Et donc, C'est quand même un congrès qui est très tourné clinique et recherche. Ça nous tenait beaucoup à cœur parce que c'est vraiment le cœur de notre, on va dire, de notre travail au quotidien avec François. Et donc, on vous invite à checker ça ou à vous inscrire. On est toujours en tarif early bird jusque là dans les 3-4 prochaines semaines. Puis après, on va monter un petit peu le tarif. Donc, ça part plutôt très très vite, pas aussi vite qu'on, enfin pas aussi, un peu plus vite que ce qu'on aurait pensé si on regarde un peu le nombre de gens inscrits aux anciennes éditions. Mais nous, on va faire vraiment une belle et une grosse édition, donc c'est cool. Il y a de plus en plus d'engouement, ça c'est top. Donc voilà, n'hésitez pas rapidement à vous inscrire pour ceux que ça intéresse. C'est l'International Angle Symposium, donc vous avez le site, dès que vous tapez ça sur Google, vous avez forcément les relais qui sont faits sur mes comptes respectifs aussi. Donc voilà.
Et bah super Romain, merci à toi encore de ton temps et du partage de ta passion. C'était super intéressant. Et puis j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour un deuxième épisode parce que j'ai encore plein de questions.
Avec plaisir, deuxième épisode, je pense que tu voulais éventuellement aborder l'évaluation.
Exactement, l'évaluation plus globale.
Les testing d'athlètes, ouais, le testing d'athlètes lorsqu'ils viennent, ouais, avec plaisir. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. C'est aussi intéressant sur l'évaluation bioméca et neuromusculaire, ouais, de façon plus générale. Ouais. Voilà.
En tout cas, merci à toi pour aujourd'hui et à bientôt. Salut à tous.
Salut, Rudy.
Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine.